les questions sont très diverses, je ne vais certainement pas pouvoir répondre à toutes, mais je voudrais rebondir sur une proposition que Lucas a émise, qui est celle de la, enfin, et qui nous occupe en fait ici, qui est celle de la critique finalement, et des appuis desquels émettre cette critique. Donc mon exposé, bien sûr, cette généalogie était courte, était réductrice, etc., mais elle avait pour seule ambition de mettre à l'épreuve, ou de remettre à l'épreuve certaines considérations, certaines opinions émises par les écologistes politiques, et de voir si ça pouvait, oui ou non, et dans quelle mesure constituer un appui normatif duquel émettre une critique aujourd'hui. Je crois que Lucas a raison de montrer que, enfin, d'une part, la question du passage des intentions vers la réalisation peut être, enfin, une des idées qui était développée à l'époque et qui, à mon avis, mérite d'être reprise, et qui est d'ailleurs reprise dans toute une réflexion sur les méthodes, sur les dispositifs qui se passent. Je pense par exemple aux ouvrages d'Isabelle Sengès, dans sa suite Emily H., qui se pose la question, au fait, bien sûr, la protection de l'environnement, la sociabilité, la mixité, tous ces critères qu'on a entendus ce matin, qui n'y tient pas, bien sûr qu'on y tient tous. Mais la question est, comment est-ce qu'on pose cette question, comment est-ce qu'on formule cette question pour se donner les moyens d'impliquer les gens nécessaires ou de l'impliquer de manière ouverte, démocratique et pas biaisée. Donc, ça c'est une chose. Et alors l'autre point que mais c'est une hypothèse qui me vient avec toutes les questions que vous posez, mais je pense que dans la proposition qu'on a entendue ce matin sur la description de ce qui se passe du côté de Barcelone, il y a une espèce de prise de risque qui, moi, m'impressionne énormément, qui est celle de quitter finalement l'appui normatif de la critique. On ne cherche plus à émettre une critique, mais on cherche à composer quelque chose. On est dans le compositionnel, on est dans l'attachement aux choses, et je crois que là, il y a quelque chose qui mérite d'être poursuivi comme réflexion.
C'est ce que vous avez présenté vous-même, justement. C'est bien ça. Il n'y a pas d'appui normatif. Dans les années 60, il n'y a pas d'appui normatif, s'il vous plaît. C'est ce que vous avez exprimé vous-même. Et c'est ça qui est troublant, d'une certaine façon, c'est que cette capacité de création, d'innovation, de développement sui generis existe encore aujourd'hui, de la même façon qu'elle a existé dans les années 60, s'il vous plaît.
Le développement de quoi ?
De capacité de création, d'imagination, de mise en œuvre, disons, indépendante, spontanée, autonome, sui generis. Elle existe aujourd'hui comme elle a existé dans les années 60.
mais aussi bien pour les initiatives, je dirais, de contre-culture que pour les initiatives de l'establishment, alors. Enfin,
pour les initiatives de l'établissement, disons, et effectivement, la question est bien celle-là, c'est-à-dire, elle a la question aussi d'une reprise, si vous voulez, d'un reformatage, une restructuration en permanence d'éléments qui sont créés à droite et à gauche dans la société, si vous voulez, qui sont reconditionnés, restructurés, reproposés éventuellement aux populations dans des contextes d'action qui sont des contextes d'action limités, spécifiés, déterminés, organisés, structurés, à ce moment-là, institutionnellement.
Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est quand on commence à s'attacher à des situations particulières, et c'est pas la même chose. De s'attacher, je ne sais pas, à la construction en terre dans les années 70 en réaction à l'uniformisation ou à la standardisation des processus de construction que de s'attacher, je ne sais pas, à des technologies d'émissions nocives.
C'est pas un tracé point différent, si vous voulez. Ce qui est intéressant, on est dans un processus inévitable de reprise, de réassimilation, de réinterprétation, de refabrication, ce qui n'empêche pas des processus autonomes parallèlement de continuer à se développer, si vous voulez. Les deux processus sont aussi inévitables l'un que l'autre. L'organisation institutionnelle va nécessairement imposer, si vous voulez, un reformatage, une restructuration, ce qui a exprimé l'idée. Et c'est absolument incontournable, si vous voulez. Et en même temps, parallèlement, il y a de la création, si vous voulez, aussi. Simplement, la structuration aujourd'hui porte sur les thématiques qui ont été les thématiques de la création spontanée d'il y a 20 ou 30 ans, si vous voulez. C'est tout. Je veux dire, cette hétéronomie, si vous voulez, elle est incontournable. C'est pas gérable, je veux dire. Il n'y a pas de jugement normatif, il n'y a pas d'élaboration normative qui soit possible véritablement par rapport à ce type de processus, si vous voulez.
Ok. J'ai peur de ne pas comprendre le. Enfin, oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais.
Je vais faire vite. Donc, en deux points. La première, sur éventuellement les raccourcis que j'ai pu faire sur l'innovation, mon responsabilité est peut-être donner l'impression de promouvoir une manière d'innovation que viendrait restreindre la responsabilité. Donc, oui, c'est un procès qu'on peut inscrire donc, dans le genre de slash hein, qui est évidemment un exercice un peu programmatique ici auquel je suis livré qui implique un certain schématisme. On va simplement dire que j'essaie de vous montrer de pointer du doigt dans l'analyse un problème de symétrie en fait, entre la manière dont, cette dont on entend mettre cette responsabilité en œuvre au regard de la conception qu'on a des systèmes d'innovation. Donc, partant de là, j'essaie de montrer qu'il y avait finalement le sentiment d'un artifice, un artifice discursif, un artifice rhétorique qui finalement réduit le responsable à un moment donné, en dernière instance, à un slogan. Et donc peut-être dans une mesure de rétorsion un peu simpliste, j'ai pris le slogan pour ce qu'il est, je l'ai poussé au bout de ses contradictions internes. Maintenant, on est bien d'accord que ça mériterait de bien plus ample développement. Et on est d'accord également sur le fait que la responsabilité peut aussi se lire de manière tout à fait différente et peut se lire comme une opportunité de repenser à nouveau frais le développement technoscientifique. C'est d'ailleurs ce que j'essaye modestement de m'employer à faire plutôt dans mes terrains, dans des laboratoires. Donc ça, on pourra en parler en plus en détail. Et sur la question de la temporalité, donc j'ai envie de vous répondre très certainement que la temporalité, elle est omniprésente dans les nanotechnologies. Vous le savez aussi bien que moi, sans doute, même mieux. Les nanotechnologies reposent sur une économie de la promesse, qui est une économie de l'anticipation. Donc, regardez les grands architectes des plans stratégiques aux États-Unis. Ils vous font un horizon à 2050 avec des feuilles de route très claires, avec des agendas déclinés en objectifs opérationnels, etc. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois, ils ont sorti un rapport où ils se repositionnent par rapport à tout ce qu'ils avaient dit 10 ans auparavant et en disant tiens, ça on a fait, ça on n'a pas fait, ça il faut encore améliorer. Donc, il y a une manière d'organiser un déterminisme là qui est extrêmement puissante et qui repose sur des promesses dithyrambiques. On va révolutionner les pratiques environnementales, on va réduire la consommation de matières premières, il y a cette fameuse phrase, on va rendre la parole aux muets, on va faire entendre les sourds. Donc il y a une économie de la promesse à derrière qui tourne à plein régime, mais qui ne résout pas la question de qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc vous avez pointé du doigt la facilité du raccourci avec les biotechnologies. Ce que j'ai voulu montrer, c'est le souci constant dans les documents de politique publique en matière de nanotechnologie d'éviter un blocage dans l'opinion, en fait, d'éviter une controverse à ce point proliférante qu'elle est bien impossible à contenir. Donc, il y a une manière d'anticipation de la controverse potentielle qui pourrait éclater et qui se fait donc qui ne peut finalement se faire qu'à la condition qu'on affirme avec suffisamment de fermeté la possibilité d'une maîtrise en dépit même des promesses dithyrambiques qui sont faites et en dépit même de la définition même qu'on donne d'une nanotechnologie, qui repose sur des propriétés nouvelles que manifeste la matière, qui sont par définition imprévisibles. Et donc il y a tout ce paradoxe de prévoir l'imprévisible qui est à l'œuvre dans les mécanismes de gouvernance qu'on essaie de mettre en place. Et vous avez raison, c'est qu'on est en plein dans la problématique de la temporalité. Et c'est à ce point prégnant dans le cas des nanotechnologies que l'histoire, écrire l'histoire même des nanotechnologies est un enjeu de lutte, avec le débat entre le père fondateur et puis Drexler, le révolutionnaire. Tout ça est évidemment mis présent, c'est sûr. Et c'est peut-être au cœur de la question, et même au cœur de la question de la gouvernance dans les formes actuelles qu'elle prend.